91 FM.
98.1 FM. Alternante FM.
Alternante la FM. Radio autrement.
Merci de votre écoute et de votre fidélité à Alternante FM. Pour la prochaine demi-heure, j'ai concocté pour vous trois histoires vraies qui font partie de votre vie, même si au moins une d'entre elles ne reflète pas votre quotidien, et c'est tant mieux pour vous. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Et parmi ces trois histoires se cache, pour le moment, une expression que j'ai ressortie du fond des tiroirs de nos grands-mères. C'est dire qu'elle date et est rarement placée dans une de nos conversations. Explication dans environ 10 minutes. Et pour conclure cette demi-heure, qui risque tout simplement de passer comme un éclair dans vos occupations du moment, est-ce que cela vous plairait de la finir en musique avec ce que je surnomme un trésor d'album ? Pas besoin de voter, j'ai préparé cette petite douceur avec bien sûr tout ce qui se cache dans cet album. Je vous souhaite la bienvenue à vous toutes et à vous tous.
Caché derrière, Alternante FM, Éric Billon.
Avant de vous conter ces deux histoires, commençons par la première, c'est beaucoup mieux comme cela. Depuis sa création, il est resté quasiment intact. Sa couleur varie selon votre choix lorsque vous sortez quelques euros de votre carte bancaire pour vous le procurer en grande surface ou en magasin spécialisé. Cependant, le noir est en tête des ventes. Vous l'emportez par pure nécessité, car l'avoir avec vous, avec soi, est signe d'un possible désagrément pour un grand nombre d'entre vous. Enfin, c'est ce que peut prévoir notre certaine carte météorologique. Et pourtant, quand la pluie fait son apparition et qu'il se met à pleuvoir comme une vache qui pisse, rien d'au-dessus que de votre tête, vous êtes ravi de l'avoir avec vous et joyeusement de l'ouvrir afin de vous protéger au mieux d'un peu d'humidité ambiante. Et à vous le bonheur de vous balader sous la pluie tout en restant au sec ou presque. Mais que se cache derrière cette présentation ? On découvre cela ensemble dans 4 minutes. Restez avec moi. Après avoir été en ligne avec le groupe de rock français Téléphone, oui je sais, celle-ci elle était facile à faire en 1985, avec un autre monde, revenons si vous le voulez bien à notre monde d'aujourd'hui, même si en 85 comme en 2019, l'objet que je vous propose de découvrir dans Caché Derrière est bien utile pour vos déplacements extérieurs, mais que se cache derrière cette présentation, le parapluie vous dirait la célèbre gouvernante et magicienne Mary Poppins.
Oh, quelle jolie promenade avec Marie. Marie fait se lever le soleil.
Vous n'avez pas changé, vous êtes toujours le même.
Même quand le ciel est mou, ça dégris. Marie s'aime des merveilles.
À 1705-1710, le premier parapluie pliant fait son apparition dans les mains de nos ancêtres. Il est de création française depuis la capitale Paris, précisément. Il est réalisé par les mains d'un commerçant qui se fait appeler Jean Marius, inspiré de l'ombrelle et du parasol pour cette fois-ci se protéger du soleil, comme l'a fait le célèbre Robinson Crusoe en 1719, en puisant d'ailleurs l'idée à nos voisins très lointains, les Brésiliens, pour lutter justement contre les rayons pénétrants. On parle alors de parapluie brisé pour se mettre facilement dans un étui. Il est alors constitué en trois parties. Et déjà, le côté pratique fait son apparition. 1718, le mot parapluie entre dans le dictionnaire de l'Académie française. Il est alors plus facile de le désigner lors d'une conversation. Il subit sa première évolution 40 ans plus tard par un savant français. Il devient le parapluie-canne. Et grâce à un certain Samuel Fox, quelques années plus tard, notre parapluie se renforce tout en étant plus léger et devient élégant. Sa fabrication à le vent en poupe, on compte plus de 400 entreprises françaises. Nouvelle révolution en 1928, le parapluie mini est né grâce à sa tige qui devient télescopique, merci entre parenthèses, à une firme allemande au passage. Les baleines se replient en deux et un mécanisme à ressort se charge d'ouvrir l'objet par une simple pression et l'avenir est alors devant lui. Aujourd'hui, et je vous parle des années 2000-2019, ce genre de système représente près de 80% des ventes. Après la Seconde Guerre mondiale, on s'intéresse de nouveau à sa composition. C'est ainsi que la toile servant à nous protéger durablement du crachin ou d'une pluie averse est le nylon. Cette matière est à la fois légère, imperméable et relativement nouvelle, donc parfaite pour relancer le marché de cet objet de protection contre la pluie. Et dans le courant des années 70, la pluie entre sur la scène commerciale et joue les régulateurs.
La pluie fait des claquettes sur le trottoir.
Les fortes pluies de 73 font inonder les ventes de celui-ci. Trois ans plus tard, sa fabrication affiche des niveaux au plus bas en raison de la sécheresse. Un nouveau souffle apparaît en 1991 avec un système encore plus pratique. Son ouverture et sa fermeture deviennent tous deux mécaniques. Et pendant ce temps, la mondialisation s'empare de sa fabrication pour réduire son coût. Le Made in France prend l'eau et les usines ferment les unes après les autres. Le parapluie devient un produit de consommation. Son coût de revient avoisine pour certains 1 euro symbolique. Mais il se fragilise notre pauvre et ami protecteur de la pluie et au moindre coup de vent, soit il fait la galette et sert d'ombrelle, soit il se plie en deux et cela ne vous fait pas rire mais vous agace, voire vous énerve et de colère vous le jetez dans la première corbeille publique. En période de tempête, sa durée de vie est de environ 10 rafales de vent au mieux. En France, chaque année, c'est presque 10 millions de parapluies qui finissent leur vie d'ailleurs à la poubelle. Et côté cinéma, le parapluie fait sa star dans deux films musicaux devenus cultes aujourd'hui. Les parapluies de Cherbourg, sortis en 1964 de Jacques Demy.
Oh, quelle jolie promenade avec vous, belle. Des hommes pareils, on a...
Trop heureuse, Marie Poppins.
Oh, Et j'en ai fait allusion au début de cette chronique, Mary Poppins, avec une sortie également au cinéma en 1964. L'histoire n'est plus ou moins issue d'un roman éponyme.
Il pleuvait fort sur la grande route, elle cheminait sans parapluie. J'en avais un volé sans doute, le matin même à un ami. Courant alors à sa rescousse, je lui propose un peu d'abri. En séchant l'eau de sa frimousse, d'un air très doux, elle m'a dit oui. Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis, elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie, je ne perdais pas au change, pardi. Chemin faisant, que ce fut tendre, d'où ira de le chant joli, que l'eau du ciel faisait entendre sur le toit de mon parapluie. J'aurais voulu, comme au déluge, voir sans arrêt tomber la pluie pour la garder sous mon refuge. 40 jours, 40 nuits. Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis, elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie, je ne perdais pas au change, pardi. Mais bêtement, même en orage, les routes vont vers des pays. Bientôt le sien fit un barrage à l'horizon de ma folie. Il a fallu qu'elle me quitte après m'avoir dit grand merci. Et je l'ai vue toute petite partir gaiement vers mon oubli. Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis, elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie, je ne perdais pas au change, pardi.
À vous de faire le choix, un coin de paradis ou un petit coin sous le parapluie lorsqu'il pleut à verse. C'était le célèbre Georges Brassens sur Alternante FM. Et il y a quelques minutes, j'ai caché dans l'histoire du parapluie une expression qui a dû, on va dire, titiller vos petites oreilles. J'ai dit « pleuvoir comme une vache qui pisse ». Au passage, je demande aux quelques auditeurs, auditrices sensibles d'Alternante FM de bien vouloir m'excuser de ce terme un peu familier. Sachez tout d'abord que cette expression bien familière est apparue dans le langage de nos arrière-arrière-grands-parents dans le courant de la deuxième moitié du 19e siècle. Vous l'employez aujourd'hui pour imager, comme j'ai pu le faire, lorsque dehors, et ça vaut mieux comme cela, il pleut en abondance, il pleut à verse. On s'imagine qu'à l'époque, un très fin observateur, positionné dans un pré, a vu à la fois une vache en train de se soulager d'une grande envie, pendant que, au-dessus, dans le ciel, déversait sur ce pauvre personne, ce pauvre malheureux, son gros nuage de pluie. Un tel spectacle a alors immédiatement permis de faire cette comparaison de déversement de liquide. La mission de la vache est d'une importance telle par rapport à l'être humain que notre observateur s'est trouvé tout petit, mais bien trempé, car dehors, il pleuvait comme une vache qui pisse à ce moment-là. Et là, vous allez me demander comment se traduit cette expression aux États-Unis, par exemple. Il pleut des grenouilles. Et dans Caché derrière, on va passer 3 minutes aux États-Unis avec un groupe de rock, country et blues à la fois. Il a connu ses heures de gloire au cours des années 60. En 72, il se sépare. D'ailleurs, en 1970, les membres du groupe évoquent les tensions rayonnantes qui arrive du ciel presque soudainement, sans que l'on sache les raisons. Have You Ever Seen the Rain évoque les caprices de la météo avec, bien sûr, la pluie. C'est une chanson métaphore pour évoquer les tensions au sein de Creedence Clearwater Revival.
Have
Éric Billon sur Alternante FM.
Place à présent au trésor d'album dans Caché derrière, un album jamais caché, mais que j'ai dû dépoussiérer en raison de la date de sa sortie. En 1985, Mike Rutherford, cofondateur et multi-instrumentaliste pour le groupe de rock Genesis, en tête de créer son propre groupe. Il fait appel pour cela à deux chanteurs, De Paul, Carac et Young, chanteurs de Seth Café, ainsi que deux grands musiciens, dont un a offert de jolis solos de percussion et de batterie à la carrière de Van Morrison. Le nom de cette formation s'appelle au départ Not Now Bernard, mais cette idée plaire guère au producteur de Mike Rutherford. Il lui propose tout simplement Mike and the Mechanics. Proposition acceptée sans les moindres hésitations et négociations de la part du futur leader. Un nouveau groupe de pop-rock britannique voit le jour en 1985. Sa boîte postale est basée à Londres, avec à sa tête un pionnier de la musique anglaise par ses solos de guitare inclassables pour Genesis, à savoir Mike Rutherford. Très vite, la formation entre en studio pour montrer au public ce dont elle est capable de réaliser et d'offrir. L'opération se fait dans deux studios différents, dont l'un est celui de Genesis. Entre parenthèses, la location est offerte par un généreux membre, à savoir Phil Collins. L'avantage de cette constitution par de grands musiciens qui se connaissent déjà permet au nouveau groupe d'enregistrer très vite les 9 titres qui constituent ce trésor d'album, encore aujourd'hui, dont le nom est celui du groupe Mike and the Mechanics. Il sort en octobre 1985 avec un premier single, Silence Running. Et contrairement à son introduction extrêmement longue et que beaucoup de programmateurs radio ont coupé à l'époque et encore aujourd'hui, son succès est quasi instantané. Il stimule tous les curieux de son pop-rock à l'écoute de cet album et ainsi déclencher le compteur de ses ventes. Des ventes d'ailleurs qui vont au passage continuer de croître, on verra cela un peu plus tard. On retrouve Mike Rutherford à la création de ce titre comme les 7 autres. Et c'est la voix de Paul Carac qui se fait entendre sur près de 6 minutes sur cet extrait. All I Need Is A Miracle sort, lui, en février 86 et permet de redynamiser les ventes de l'album. Et cette fois-ci, l'interprétation est confiée à l'autre Paul de la formation, Paul Young. Pour refermer le chapitre des titres singles de cet album, on retrouve la ballade joliment emmenée par la voix de Paul Young, Take In. Contrairement aux deux précédents, celui-ci reste relativement discret. Peut-être la faute à sa sortie tardive par rapport à l'album, lui sorti 10 mois auparavant. La particularité de ce dernier est le titre A Call to Arms, emprunté à Genesis. Alors pour l'anecdote, ce titre a bien été enregistré par Phil Collins et sa bande dans le passé, mais n'a jamais été retenu pour un album. Les deux auteurs Tony Banks et Phil Collins l'ont alors offert à leurs copains de groupe historique, afin que A Call to Arms rencontre une seconde chance. L'album Mike and the Mechanics est le premier album studio du groupe du même nom. En général et mondialement, son accueil est très positif. Et c'est de l'autre côté de l'Atlantique, au Canada, que chez nos voisins, au nord-est l'Allemagne, qu'il rencontre un large public de fans. Aux États-Unis, il est certifié disque d'or suite à la tournée américaine organisée par la formation au grand complet pour justement promouvoir l'album. cette idée mijotée dans l'esprit de Mike Rutherford est une réussite, car Mike and the Mechanics atteint le chiffre de 5 millions de ventes en quelques mois. Le nouveau groupe de pop-rock britannique a désormais son club de fans. La voie du succès lui est alors grande ouverte pour de nouvelles sonorités à venir très très prochainement. C'est sur les premières notes de Silence Running que l'on se donne rendez-vous pour un nouveau cachet derrière. Ce sera la semaine prochaine, toujours sur Alternante FM. Et si vous avez aimé tout ou partie de ces histoires avec l'envie de les réécouter, eh bien il ne vous reste plus qu'une chose mes amis, plus qu'à aller sur le site internet de la radio et sélectionner le podcast de Cachet derrière. Je vous embrasse.